Oui, ça veut dire
tête. Chès.
Chet.
Chet, oui. Comme huit. Chet comme huit.
Oui, comme le eagle.
Arrêtez vos citations philosophiques, là.
Je coupe le micro.
Rabbi Yoshua ben Levi, Petar Karia Begalut. Rabbi Yoshua ben Levi, il a ouvert le passage, le verset, parce au Galut, en exil. Comment est-ce qu'il a interprété ça? Vayetse Yaakov mi Beersheva, Beersheva, donc, il est sorti de Beersheva, Echmat de Atamar, Shalach Meal Panaï Vayetseu. Il a pris le verset de Yirmiya et il a appliquer ça à notre situation. Il a commenté donc ce verset, notre verset à nous, de la sortie de Beersheva, par rapport au verset qui dit renvoie le loin de moi, de ma face, quoi, Veyetseu, et qu'il s'en aille, qu'il sorte. Vayelechan, Echmad Atama, Asher Hoga Hashem Beyom Charon Apo. Donc lui prend tout le verset, il prend tout le texte de Bereshit et il met chaque morceau du texte, pas obligatoirement un verset entier, en rapport avec un morceau d'un verset qui concerne, un verset qui se trouve dans Yirmiya et qui concerne le Galout, c'est-à-dire le Galout du temps d'Yirmiya, c'est le Galout de Babel. Le fait que les Bnei Israël sont renvoyés en Babel. Sortir de Beersheva, il le met donc en rapport avec le fait de qu'il s'en aille. Comme si Beersheva c'était en rapport avec la face, de c'est devant la face, c'est le bon endroit en quelque sorte, et sortir de Beersheva c'est à la limite, on ne s'occupe pas tellement où il va, c'est qu'il ne reste pas là. Donc ensuite, où est-ce qu'il va? Ben, il va à Haran, et là, il remet ça en rapport avec un verset qui est toujours de l'époque de Yirmiya, mais cette fois-ci, c'est dans Echa. Donc, « Asher hoga Hashem beyom charon apo », c'est-à-dire... ce qu'Hachem a fait, il a décidé le jour de sa colère. Vaivga Bamakom, il est littéralement, il a rencontré ce lieu-là. Ad Efes Makom. On met en rapport avec le verset qui dans Yirmiya, cette fois-ci dans Yeshaya, c'est toujours la même époque, n'est-ce pas? C'est les prophéties sur le Galout Babel. Ad Efes Makom, jusqu'à un endroit qui n'était pas un Makom, enfin un endroit qui n'existe pas. Vayalen Sham qui va à Shemesh. Il a passé la nuit là-bas parce que le soleil s'est couché. Umlala, malheureuse, Yolenet Ashiva, celle qui a mis au monde les sept. Vaikar Meavne Amakom, il a pris des pierres de l'endroit. Il a mis en rapport avec un pasouk de Echa, Tishtapechna Avne Kodesh Berosh Kol Chutzot, elles se sont renversées, en fait. Les pierres du Kodesh, c'est les pierres du sanctuaire, et Kol Chutzot, un peu partout, donc dispersées partout. Ve'yasem merashotav, il a mis sous sa tête, qui yarad merashotechem, le pasuk qui dit donc, c'est descendu de vos têtes. Vaishkava makomaou, ça ne correspond pas tellement à la traduction que vous avez devant vous en français. Je ne sais pas, ils devaient avoir devant eux une autre traduction. Enfin, ou une autre partie du verset peut-être. Vaishkav donc va makomaou. Et Nishkeva, Vebashteinu, Tu, Klimateinu, elle c'est-à-dire, nous sommes couchés dans notre honte et recouverts de. Je vais passer la honte encore plus fort, quoi. ויחלום והנה סולם, זה חלומו של נבוכדנצר. Il a rêvé, l'échelle c'est le rêve de נבוכדנצר. והנה סולם זה צלמו של נבוכדנצר, הוא סמל, הוא סולם, והסמל לסולם זה למם לטר. אותו ידידן הוא אותו ידידן, ללט דולן סון ללט דולוטר. Ça veut dire le semel, c'est un symbole, un insigne en fait. Ça veut dire que l'échelle est sur, elle est posée sur terre. Soulam, Nitzabartza, comme on sait, on dit c'est Tsalmo, c'est l'image de Nebuchadnezzar. Ou semel ou soulam. Pourquoi? Parce que soulam et semel, je veux dire l'image, le symbole, c'est les mêmes. Les lettres de l'un sont les lettres de l'autre. Mutsavartsa, elle reposait sur terre, cette échelle. Akime Bibikat Dura. Il l'a fait tenir, il a fait se tenir sur la plaine de Dura. Donc c'est Nebuchadnezzar qui avait fait cette énorme statue. Et là, le haut de l'échelle touchait le ciel. Roumé Amin Shitin, Pétaillé Amin Shit. Alors, on parle ici des dimensions de la statue. Donc, 60 et 6, 60 de hauteur, je pense, 6 de largeur. Vine Malaché Elohim Zé. Les anges d'Elohim qui montent et qui descendent sur l'échelle dans la vision de Yaakov. Zechanania, Michel et Azaria. Ça, ce sont les Malaché Elohim. Olim v'yordim bo. Ils montent et ils descendent. Ma'alim bo ou moridim bo. C'est-à-dire, ils font monter et ils font descendre. Efzim bo v'kavzim bo. Sotnim bo. C'est-à-dire, c'est des expressions qui vont dire, ils sautaient, ils dansaient, ils se moquaient. Yedia le evelach, malka dile elach, lo itana palchin. Alors, ils ont dit, Yedia, sache, enfin, que Yedia te evelach, c'est-à-dire, que tu en es là. Et la sagesse, c'est-à-dire, sache-le, que Malka dile elach, lo itana palchin. C'est-à-dire que le roi qui est ton. Ou bien. Ah non. Ils ont dit, sache-le, roi, que ton roi, ton Dieu, nous ne le servirons pas. Ou le tselem d'Ahava, et au tselem en or, dit Akimta, l'on is good, on ne se prosternera pas devant le tselem en or, donc la statue en or que tu as faite. Vene Hashem nitzav alav. Le passage continue que sur au-dessus de l'échelle, Hashem se tenait. Amar lahem le Hanania Michel Vazaria. Il a dit aux anges ici, il leur a dit Avdoui dit Elaha Ilaha, serviteur du Dieu élevé, Fuku Veitu, sortez et venez. D'avoir acher, autre chose. Vine malaché Elokim ze Daniel. Olim viordim bo, donc c'est. Ils montent et ils descendent. Sha'ala veotsi et bil'o. Mitoch piv. C'est Daniel qui est monté en fait. Et qui a enlevé. Le roi pour faire croire que la statue parlait. Il avait mis le Shem Hashem dans la gueule de la statue qu'il avait, et elle parlait, parce qu'il y avait le Shem Hashem dedans. Alors pour enlever ça, Daniel est monté, il a sorti le Shem Hashem. Adaou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le pasouk, Ufakadti al-Bel de Babel, j'ordonnerai Abel, qui était une divinité là-bas, en Babel, donc je lui ferai payer. Et je sortirai Bilo, justement, c'était ce Shem Hashem. Et là, c'est une croix, mais c'est en quelque sorte ce qu'il avait pris, le Shem Hashem. Je le sortirai de sa gueule. Shayalo tanin echad le Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait un crocodile, enfin, ou un serpent, un grand serpent, un grand machin de mer, quoi. Vaya bolea kol machayu machlichim le fanav. Il avalait tout ce qu'on jetait devant lui. Amarlo Nebuchadnezzar le Daniel. Nebuchadnezzar a dit à Daniel, il lui a dit, Kama kocho gadol. Regarde sa force. Il est capable d'avaler tout ce qu'on lui jette devant lui. Amarlo Daniel, tenli rushut vani matisho. Si tu m'en donnes la permission, moi je vais l'arrêter, moi je vais l'affaiblir. Nathan rushut, Nebuchadnezzar lui a permis. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Natal teven veitmin le tocho masmerim. Il a mis du foin et il a caché dedans des clous. Il l'a jeté devant lui, donc l'autre l'a avalé. Venikvu masmerim et bnemeav. Et les clous ont troué son estomac, son système digestif. Daudirtiv veotseti et bilo mipiv. J'ai sorti ce qu'il avait avalé. Parce que bil'o, bolea, ça veut dire avaler. C'est ce qu'il avait avalé, je l'ai sorti de sa gueule. Voilà le Yon Gimel. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là, Rabbi Yehoshua ben Lévi? Il met en rapport donc la sortie de Yaakov qui sort de Beersheba, qui va à Haran, et tout jusque y compris le rêve de Yaakov, qui rêve et qui voit le nom. cette échelle avec les anges qui montent et qui descendent, et on met tout ça en rapport avec l'exil, les préparations de l'exil et l'exil de Babel. Et justement, ce qui se passe dans cet exil de Babel entre Daniel, les trois, Rabbi Michel Vazaria, d'un côté, et Nebuchadnezzar, de l'autre. Donc, ce qu'on entend ici, c'est qu'il y a une dimension d'exil, ou si vous préférez, c'est comme si l'exil a été préfiguré. Il y a un klal qui dit que siman, masé avot siman labanim, que les actes des avot sont un signe. Donc, d'une certaine manière, il faut l'entendre comme si d'avoir fait ces choses-là, les avot nous ont facilité la vie. Concrètement, quand les Bnei Israël sont allés en galoute, en quelque sorte, le chemin avait déjà été pavé d'une certaine manière par Yaakov. Donc, Yaakov est sorti de Beersheba, comme si on avait une préfiguration, comme si on avait une espèce de répétition générale de ce qui allait se... et de mise en place, en fait. Un peu comme, vous savez, quand quelqu'un fait une ascension pour la première fois, il invente un chemin, en quelque sorte, alors il va laisser éventuellement certaines marques, c'est-à-dire des trucs qu'il a enfoncés, des pitons, des choses, il va les laisser. Et ceux qui vont par la suite faire l'ascension, ça va les aider. Ils sauront d'abord par où il faut passer, et puis ensuite ils auront des points d'appui. Donc c'est comme si les Avot, en fait, avaient fait pour nous ce travail. Pour le clan Israël, ils ont fait ce travail. Alors, la sortie de Beersheba, le fait que Yaakov est parti à Beersheba, parti de Beersheba, c'est comparé ici à la sortie des Bnei Israël, ils partent pour le Galout. Si Beersheba, si vous voulez, c'était Eretz Israël, et les Bnei Israël vont partir en Galout, en Babel, c'est leur départ pour. C'est comme si le modèle de cela, c'était la sortie de Beersheba et le départ pour Haran. Ensuite, il y a des considérations sur la situation qui est devenue Israël, ce qui leur arrive en quelque sorte, et on met en rapport avec la situation des Bnei Israël, comme si au fond, comme si ces pierres, comme si le lieu où Yaakov s'installe, c'était analogue à des situations dans lesquelles la reine va perdre sa couronne, etc., où on a dû se coucher à peu près n'importe où, on a perdu. Ils ont dû se coucher dans la... Ils étaient probablement dans la poussière, etc. Des gens, y compris ceux qui étaient dans des palais, ceux qui étaient... Ben, tous ceux-là, ils ont dû camper à la dure, etc. Mais ensuite, il y a une dimension du chalom. Mais ensuite, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, on a l'impression ici, c'est la prise en charge d'Ebné Israël en Babel. Elle se dit ici sous la forme d'une intervention, sous la forme du rêve de Yaakov, dans lequel Yaakov voit tout ce qui est mis en place, tout ce qui est fait pour lui, quoi, parce qu'il voit les fameux anges qui l'ont accompagné jusque-là, qui repartent là d'où ils venaient, parce qu'il avait des anges qui l'accompagnaient, mais c'est des anges différents selon qu'on est en Eretz Israël et selon que. On est en route Sarès, donc les anges qui l'accompagnent en Eretz Israël doivent retourner. Et puis il y a d'autres anges qui sont les anges qui vont l'accompagner en route Sarès, puisque maintenant il va sortir d'Eretz Israël. Cette idée d'un accompagnement, et qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce que c'est que les anges qui vont accompagner avec l'Israël? Ben, ça va être les trois, ça va être les Hanina, Michel, Azaria d'un côté et Daniel de l'autre. Enfin, donc ceux-là vont être les accompagnateurs des Bnei Israël. Ils vont être en galoute avec les Bnei Israël et ils vont sauver les Bnei Israël, ils vont prendre en charge le clan Israël, ils vont aider le clan Israël à ne pas tomber dans l'idolâtrie du temps de Nebuchadnezzar. Et puis, alors maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que c'est que cette image? D'accord? Le pasouk dit ici, et voilà, Daniel, qu'est-ce qu'il fait de très important? Il va empêcher l'ambiguïté, c'est-à-dire il va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que la statue, l'idole babylonienne, n'apparaisse pas comme ayant un vrai pouvoir, comme parlant, comme si c'était Hachem qui parlait. Donc pour ça, il a fallu qu'il aille arracher le Shem Hachem que Nebuchadnezzar, puisqu'il a conquis Israël, il a pu faire main basse sur les endroits où il y avait le Shem Hachem, le titre, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a pris. Et Daniel est allé le récupérer. Alors, est-ce qu'on a une indication concernant ce que Daniel a fait dans ce qui est arrivé à Yaakov? Là, on a l'impression qu'on n'est pas complètement à la deuxième partie. Elle a l'air de se jouer uniquement en Babel avec le livre de Daniel. Mais à la fin, on dit Ada ou Dirtiv. Non, c'est quand même quelque chose qui est là, mais ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu au temps d'Yaakov. Mais un passouk dans Yirmiya, au moment où les Bnei Israël partent, où Hachem dit « Fakati albel bebabel », c'est-à-dire que je vais m'occuper de lui faire sa fête à la divinité Bel en Babel, et je sortirai la proie, sa proie, je la lui arracherai en fait. Alors là on voit que c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de... Là, il semble qu'il n'y ait pas de préalable au temps de Yaakov, comme si cette partie-là, Yaakov n'avait pas préparé, en fait. Bon, il y a les anges, mais après, qu'est-ce que Daniel fait sourd pour éviter l'ambiguïté d'une idole qui parlerait, qui pourrait apparaître pour les Bnisraël, parce que l'idole en question, elle parlait, elle disait « Anochi Hashem Elokecha », etc. Elle disait « Je suis Hashem qui t'ai fait sortir d'Égypte », etc. C'est ce que l'idole en or, de Nebuchadnezzar, disait, parce qu'il y a la belle Shem Hachem dans la bouche. Alors, dans les Likoutim, vous avez sur la marge de gauche, vous avez des Likoutim, et en bas, vous avez Dava Acher, Zé Daniel, Darash Olim, il interprète que Olim s'apporte sur Daniel, il monte. Les anges qui montent, c'est Daniel. Chéléalide Zé chez Aragatanin, Valide Zé, Atanin, Yarad, Shaya Nebuchadnezzar. Medamesh et Yeshbo Tzad Elaout. Dans ces Likoutim, ils disent qu'en fait, le mot Olim se réfère dans les Malachim qui montent et qui descendent. Olim, c'est Daniel qui monte et qui donc va monter et arracher le Shem Hashem de la statue. Et à ce moment-là, la statue, elle a perdu toute sa valeur. Et donc, c'est ça qu'il dit, quelque part. Pour Nebuchadnezzar, c'était une descente de son Dieu qui était plus capable de parler. Donc il ne pouvait plus énoncer quoi que ce soit. Et donc on peut dire que dans le fait qu'il y a Olim ve Yordim, une des lectures c'est de dire Olim, Daniel monte et il fait descendre l'idole. Bien sûr, on pourrait dire que l'idole qu'il fait descendre, si l'idée d'une descente, les anges qui descendent, c'est les anges qui vont accompagner Yaakov en dehors d'Eretz Israël, puisqu'il va chez il va à Haran. Ouais. Mais, alors justement, on pourrait dire que les anges qui descendent, c'est les anges qui ont à voir avec l'en dehors d'Israël. Les anges qui montent, c'est les anges qui remontent, ayant accompagné Yaakov tant qu'il était sur le territoire d'Eretz Israël. Et donc, quand on dit qu'il y a un ange qui descend, ça peut vouloir dire ici que l'ange, celui qui était pris par un ange ou pour un dieu, par Nebuchadnezzar, lui, il descend. C'est-à-dire que Daniel monte et il fait descendre l'ange en question. L'ange en question, c'est... Mais en tout cas, d'après cette lecture-là, on peut dire que c'est l'idole de Nebuchadnezzar qui dégringole.
Qu'est-ce que ça doit nous apporter, en fait, cette description de la Guéroute de Nebuchadnezzar? Parce que, a priori, on est plus dans cette Guéroute.
Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. J'ai entendu que... Je ne vais pas me rappeler où, tu sais. Enfin, c'est très vraisemblable. Que le galout d'Edom, le galout dans lequel nous sommes, c'est un galout dans lequel les autres galouts se récapitulent. C'est-à-dire on avait des problèmes spécifiques à résoudre en Babel, avec les Mèdes et les Perses, ensuite avec Yavan. Et le galout d'Edom, c'est tout à la fois. C'est comme si on avait à résoudre les problèmes les uns après les autres, trois problèmes, qu'on a résolu, effectivement, on est sorti de ces trois galouillottes, et maintenant on les a tous ensemble. Et du coup, parce qu'ils sont tous ensemble, un instant, parce qu'ils sont maintenant tous ensemble, ces galouillottes, alors ça devient complexe, parce que ça joue ensemble, ça donne des configurations qu'on n'a pas connues. On sait faire avec chacune pour soi. Mais maintenant, quand c'est ensemble, c'est une nouveauté. Et donc cet élément-là, il est aussi dans notre galout à nous. Le galout de Babel, il est plus tel quel, mais il est présent dans le... Il y a des composantes du galout de Babel qui sont dans le galout d'Edom. Parce qu'Edom, ça représente tous les peuples. Donc évidemment, il inclut, y compris Babel, donc y compris le galout de Babel. Tout à fait, oui.
Prophétique,
sur ce qui va se passer.
Ah, ça aussi, oui. Sur ce qui va se passer.
Donc, toujours le problème de la lecture, quoi. Comment.
Parce qu'il y a. Comment les Néviim de l'époque de la veille.
Alors, est-ce que les.
Ils ont vu ça.
Oui.
Ils ont mis sur cette lecture pour.
Ça, j'en sais rien, parce que ici, celui qui parle, c'est Rabbi Yoshua ben Lévi, donc c'est bien plus tard.
Après, oui.
Oui.
On disait pas ça aussi pour la galoute. On sait qu'elle comprenait toutes les galoutes.
Qui est la galoute de quoi?
On dit que j'ai entendu dire que la galoute Misraïm,
oui,
comprenait toutes les galoutes.
C'est juste. Mais d'une autre manière, le galoute Misraïm, c'est la mère des galouillottes. Ça comprend toutes les galouillottes parce que comme Hachem a dit, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, ok, tu m'envoies leur parler, tu vas parler au Bnei Israël, ils vont me demander qui t'envoie. Est-ce que je leur réponds? Hachem a dit Eke Asher Eke, oui. Alors, ce qui s'interprète, je serai avec eux dans les galouillotes à venir, comme je suis avec eux dans ce galoute. Mon cher Rabbeinu, il a dit, ça va pas. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit, mais tu crois qu'ils vont maintenant vouloir sortir si je leur annonce qu'il y aura d'autres galouillotes. Alors, on sait que mon cher Rabbeinu, lui, en fait, il a négocié avec Hachem, mais il n'a pas réussi. Lui, il négociait qu'Hachem permette au Bnei Israël de supporter la dureté du galout Mitzrayim jusqu'au bout, parce qu'on est sorti 190 ans avant le terme, jusqu'au bout pour qu'on n'ait plus besoin d'aller en galout. Au lieu de nous faire sortir de façon miraculeuse et ensuite tout ça, il demandait à Hachem, aide-nous à tenir le coup jusqu'à la fin, et puis ça en sera terminé. Alors même si on est à moitié KO, mais seulement on n'aura plus, c'est terminé, on aura... Mais Hachem n'a pas accepté. Donc, de ce point de vue-là, Mitzrayim, c'est bien la mère de tous les galouts, parce que la fin du galout de Mitzrayim, c'est 190 ans qu'on n'a pas payé, en quelque sorte, en galout de Mitzrayim. Eh bien, on est en train de les payer, on les a payés dans les différents exils, et on est encore en train de les payer. Et donc, de ce point de vue-là, ça contient en soi les galouts, parce que les galouts à venir sont la suite. Tandis que le galout d'Edom, c'est une autre affaire. C'est bon. Bien sûr que ça, c'est lié. Mais c'est comme si le galout d'Edom, il récupère en quelque sorte ce qui s'est fait. Et il est au sommet, en quelque sorte. Et il récupère tout. Et le galout Mitzrayim est à la source de tous les galouts. Non, justement pas. Elle ne fait pas partie des quatre galouillotes parce que les autres galouillotes sont la continuation de ce galout de Mitzrayim que nous n'avons pas vécu jusqu'au bout. Enfin, je dis toujours que si on veut se rendre compte de la difficulté du galout de Mitzrayim dans ces 190 ans qu'on n'était pas capable de supporter, il faut imaginer que les 2000 ans, là, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire au fond, il faudrait imaginer que ça soit compressé avec un facteur 10. 190 ans avec un facteur 10, on peut imaginer que chaque année du Galout en Mitzrayim aurait correspondu à 10 ans. Donc quand on s'imagine qu'il y avait des années qui auraient correspondu éventuellement à 10 ans entre 33 et 45 ou des choses comme ça, donc il aurait fallu tout concentrer dans une seule année, et tout concentrer les croisades dans une ou deux années, etc. Donc c'est impensable. On comprend bien que c'était pas jouable, c'était impossible. Il faut impérativement l'étendre. Le chesed d'Hachem, il a étendu, c'est une condition sine qua non. Quand on dit on était au 49e degré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer continuer de rester là-bas si, en fait, les problèmes et les souffrances étaient celles qu'on a connues depuis, disons, 10 fois 190 ans et plus, mais concentrées sur une seule fois 190 ans. Bien, Yud Dalet. Davar Acher, autre chose. Vine Soulam. Et voici dans le rêve de Yaakov, il y avait l'échelle. Zechalomo shel Nebuchadnezzar. fait, ce rêve de Yaakov, c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Ve'elu, pardon, ve'alu tzlem chad sagi. Donc, il a fait donc ce, lui dans son rêve. Le Etz Yosef, il dit, c'est Chalomo shel Nebuchadnezzar, chez Ramaz Akadosh Baruch Hu le Yaakov b'Chalom Hazé. Le rêve de Nebuchadnezzar, Hashem l'a dit de façon allusive dans ce rêve du Soulam. Aliot v'iridot à Arba Melachim, à Dalet Malchuyot, les quatre royaumes, Kacher Ramaz le Nebuchadnezzar b'Chalom Hatzelem, les quatre royaumes auxquels il est fait allusion dans le rêve de Nebuchadnezzar quand il voit la statue avec les pieds d'argile, etc. Yordim ve'olim, alors, Mutzav Arza, Vezive Yetir Kaem le Kabbalah, et son éclat était, bon, je crois qu'il était là en face de lui, en face d'eux. Verosho Magia Shamaima, et sa tête arrivait au ciel. Salma Diken Rav, donc il a fait une énorme statue. Vine Malaché Elohim Olim Ve'olim. Alors on dit Shnaim. C'est un pluriel, le plus petit pluriel, c'est deux. Ve'yordim Shnaim. Et ceux qui descendent, ils sont aussi pluriels, donc c'est aussi Shnaim. Elu Sare Arba Malchuyot. Ce sont les princes des quatre royaumes. Chez Shaltanutan, pardon, Gomeret Bahen. Donc les quatre royaumes qui vont dominer le clan Israël. Olim ve'yordim. Alors, Yordim ve'olim en ktivkat. C'est pas écrit, ils descendent et ils remontent. Et là, Olim ve'yordim. Ils montent. Olim hem ve'aliyat hem. C'est-à-dire, ces royaumes vont grimper, ils vont devenir de plus en plus puissants. Et là, chez kol echad ve'echad, yarud mechavero. Mais chacun est inférieur au précédent. C'est écrit, ou tsalma reche didahav. Ce tselem, cette statue, sa tête était en or. Chadoui udraoui dikesef. Ensuite, le torse est les bras sont en or, en argent, etc. Bavel le Mala Mekulam. La tête en or, c'est Bavel. C'est au-dessus de tous. Comme c'est marqué, Antu Recha Didav. Tu es la tête en or. Urtiv ou Batrach Takum Malkach Re Ra Minach. Et après toi, il viendra un roi qui sera moins bon que toi. Urtiv ou Malko Klitaa est le troisième roi, Achre Dinechasha. Et lui, il sera en Nechoshet, c'est-à-dire en fait en cuivre ou en airain. Urtiv Besefa. Vezbat raglaya minhon parzel. Ou minhon chasaf min ktsat malchuta teve takifa ou mina teve tvira. Alors, le troisième royaume, après, donc il est en cuivre, en airain, Après, celui-là, c'est marqué à la fin que les orteils de ses pieds sont en fer. Oui. Ça veut dire que c'est, ça sera un royaume qui sera un peu fort, un peu faible, parce qu'il y a un pied qui est en métal et l'autre qui est rien, quoi. Vénère Hachem Nitzav Alav, sur l'échelle il y avait Hachem qui était debout au-dessus de l'échelle. Et c'est marqué Uviomehon dit Malchaya Inun Yakim Elashmaya Malka Dile Almin. Et en leur temps, c'est-à-dire le et Joseph il dit Upiresh Alav Etzlo, que mot le Alav il l'a interprété comme étant, vous le dire, à côté de lui, avec lui. Comme on dit, Alav Mate Menaché. C'est pas au-dessus de lui la tribu de Menaché dans l'organisation du clan Israël. Alav, ça veut dire à côté. Kistamuch le Abba Malchuyot Yakim Elashmaya Malchut Amiyuched Etlo. À côté de deux, Kadosh Baruch Hu, le Dieu du ciel en fait, il va instaurer un royaume qui lui appartient. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont être à côté de ces royaumes-là, semble-t-il. Oui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Le rêve de Yaakov, c'est un remès du rêve de Nebuchadnezzar. Par conséquent, dans le rêve de Yaakov, ce qui se montre là, ce qui monte et ce qui descend, ce sont les royaumes dans lesquels les Bnei Israël sont prisonniers, sont en galoute. Et donc il y a une assurance, et ça valable, ça veut dire finalement les choses sont gouvernées par Hachem, et Hachem va installer à côté d'eux les quatre royaumes. Un autre royaume, savoir le clan d'Israël, ce sera son royaume à lui. Je ne sais pas exactement ce que ce midrash nous apporte vraiment de nouveau, dans la mesure où ça a l'air d'être simplement ça n'a strictement rien à voir. On dit que le rêve de Yaakov, c'est le rêve, mais on n'explicite rien du tout. Oui, parce que c'est une autre édition. Parce qu'ils ont, ils avaient devant eux une autre édition, probablement. On voit très bien, il n'y a pratiquement pas de commentaires sur la page. L'Ikoutim, oui, enfin, tu le vois pas dans le, on le voit pas tellement dans le texte ici. Le Midrash, non? Mais toi, tu le vois?
Le Yud
Gimel était un peu mieux. Oui. Bon, mais le Yud Dalet ici, je ne sais pas quoi, j'ai rien à vous dire parce que je n'y comprends rien. Je veux dire, je ne comprends rien. C'est pratiquement la traduction du livre de Daniel, enfin, pas même traduction, c'est un. C'est la copie, c'est un copier-coller de. Avec, ouais, en traduction en hébreu d'un texte qui est en araméen dans Daniel, qui est dit ici en araméen avec un peu d'hébreu. Oui, je ne sais pas quoi dire, donc on ne va rien dire parce que j'ai rien à dire. Je me suis demandé, on dit que c'est le chalom de. D'habitude, un chalom, ça devrait nous aider à comprendre quelque chose, mais le chalom de Nebuchadnezzar est déjà une parabole. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une parabole de la parabole? C'est pas ça, on a dû dire « Zé chalomo shel Nebuchadnezzar ». C'est comme si Jacob, il rêve la même chose que Nebuchadnezzar, mais dans son langage à lui. Dans le langage de la Torah, dans le langage des Avot. Dans le langage des Avot, les royaumes ne sont pas décrits comme étant des parties d'un tout, mais des anges. C'est-à-dire qu'ils forment un corpus d'anges, si vous voulez, mais ce n'est pas des parties d'un ange. Tandis que dans le royaume, dans le rêve de Nebuchadnezzar, les quatre royaumes, en fait, forment un corps, forment une statue, forment un corps. Donc il y a une unité de Malchouyot chez Nebuchadnezzar qui n'existe pas chez nous, je veux dire, chez Yaakov. Chez Yaakov, il y a des Malachim qui montent et qui descendent, et même si on dit qu'il n'y en a que quatre, il y a le pluriel à chaque fois, mais deux et deux, mais bon, ils sont deux qui sont, voilà, il y en a deux qui montent, deux qui descendent, ça ne forme pas. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que les quatre royaumes, c'est assez curieux, parce que dans le rêve de Yaakov, si on dit que c'était deux Olim et deux Yordim, il n'y a pas eu quatre royaumes qui sont montés et quatre qui sont descendus. Il n'y en a que deux qui sont montés, les autres n'ont fait que descendre. Mais les premiers ne semblent que monter et les autres que descendre.
Et les quatre royaumes, ils jouent le même rôle? Parce que les deux qui montent et qui descendent, c'est un rôle inverse.
Justement. Mais les quatre royaumes chez lesquels nous étions, les. Babel, Parasumada et Yavan, et Edom. Sur Edom, cette idée qu'il y en a qui montent et qu'on ne voit pas monter, ça c'est marqué. C'est la prophétie d'Ovadia qui dit sur Edom, même Im Kanesher, même si tu t'élèves comme l'aigle, etc., j'irai te chercher là et je te ferai redescendre, dit Hachem. Mais du coup, ici, il y en a deux qui montent, il n'y a pas seulement Edom. Si je voulais dire les choses de cette manière-là, il y a un deuxième qui semble monter et ne pas s'arrêter. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi, on pourrait dire c'est Yavan, dans la mesure où Yavan est inclus, où la Grèce est incluse dans Edom. C'est Edom en vérité, il a vaincu la Grèce, mais la Grèce l'a civilisé. Quoi. Est-ce que ça, ce sont les deux dont on dit qu'ils sont en montée et qu'ils ont parti liés? À ce moment-là, les deux qui descendent, parce que dans l'histoire, on les voit essentiellement descendre. Dans l'histoire, nous, il faut peut-être que c'est vu par nous, on les voit essentiellement descendre. Pardon ? Les Babyloniens et les Mèdes et les Perses. Oui, c'est le même endroit, puisque les Mèdes et les Perses ont vaincu les Babyloniens, ils ont pris leur place. Et pour nous, c'est considéré comme deux exils différents, parce qu'ils avaient des philosophies différentes et qu'ils nous posaient des problèmes différents. Forment tout.
De la même façon, en fait, chaque fois qu'on arrive à diviser, à voir des différences, on enlève de la force. Enfin, ce serait ça, en fait, la Torah, la vote, nous permet, en fait, de voir, en fait, dans chaque exil, une spécificité, donc, de donner des définitions, de l'affaiblir. Hein.
Oui. Mais je vois pas en quoi tu. Dans la statue de Nebuchadnezzar aussi, on voit un qui a un or, l'autre qui a un airain, en argent ou en fer.
Il y avait plus l'unité. En fait.
Oui, il y a l'unité. Ben, c'est sûr, ils forment une statue. Et tu fais une statue même en matériaux différents, on voit des éléments différents dans la statue, par les matériaux, etc. Mais c'est une statue. Bon, c'est pas très clair dans ce que je dis, cette histoire des Malachim. Cette idée que Edom monte, on la voit par ailleurs, mais pourquoi pas Babel, Parasumada, ils descendent? Seulement descendent, on les voit pas monter. Donc c'est un peu compliqué, d'où ils viennent. C'est bien clair que le Galout, Babel, Parasumada, c'est un galout de 70 ans, hors tout, quoi, entre Babel et Parasumadai, parce qu'après on est censé revenir, on est revenu. Et au fond, Parasumadai, bon, on peut dire. Ils descendent, c'est-à-dire que pour nous, ils ont vu du point de vue du clan Israël, le galout de Parasumadai, c'est oublié, quoi. Quelque part, bon, il nous reste pourrine du galout de Paras, mais du point de vue des ennuis qu'ils nous ont faits, tandis que Yavan et Rome, c'est loin d'être oublié. Qu'ils aillent deux par deux, ça on comprend assez bien. Bon, c'est-à-dire que Babel passe au Modaï, que ça va ensemble, c'est clair, c'est les mêmes. Ils ont pris la place des autres, sans que nous bougions. Et Yavan et Edom, c'est pas. C'est clair que la Grèce et Rome, ça a parti lié.
On ne comprend pas, c'est pourquoi il y en a deux qui montent et deux qui descendent.
Pourquoi il y en a deux dont on dit que il monte et deux dont on ne dit que il descend? Alors je dis, dans notre souvenir, c'est possible que Parasomodai ne reste que comme essentiellement de, on en descend, on descend. Enfin, ils descendent pour nous, ils disparaissent. Alors que les Grecs et les Romains ont marqué, et ils marquent en permanence le clan d'Israël.
Il n'y aurait pas Ishmaël aussi.
Non, mais tout de même, Ishmaël n'est pas dans le quatre royaumes. Le Maral le traite, le Maral sur Hanouka, il parle de ça.
Jacob, quand il sort, enfin, la vanne, ça ressemble entre guillemets à plutôt la déco de sort.
Père,
c'est
pas rien du tout. Ouais. Mais dans le rêve de Jacob, il ne se voit pas sortir, il voit simplement une échelle, c'est tout ce qu'il voit lui. L'échelle, les anges qui montent, qui descendent, et Hachem qui est Nitzav Alav. Mais ce qui me dérange plus, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que Babel est présenté comme étant la tête. La tête d'or, en plus. Alors, en quoi est-ce que Babel représente la tête ? Non, c'est pas la même époque du tout. C'est vrai que quand Nebuchadnezzar dit moi je suis au-dessus de tout, quoi, et c'est réminiscent de Nimrod qui dit on va construire la tour de Babel et on sera au-dessus de tout. Pardon ? J'ai pas de mon sonotone, si vous parlez pas plus fort, j'entendrai rien.
Pourquoi ça dérange que la tête soit d'or ?
Ah non, c'est pas ça qui me dérange, mais que Babel soit la tête d'or. C'est à la fois la tête et le métal le plus précieux.
Et pourquoi
alors ?
Pourquoi ça dérange que Babel soit.
Parce que. Est-ce que. Si on considère que Edom, c'est C'est au contraire la totalité des peuples et le gros morceau, quoi. Alors, moi, j'aurais mis Edom en tête. Et comme c'est pas moi qui ai inspiré Nebuchadnezzar, enfin, je vous le dis tout de suite, hein, c'est... qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pardon ? Oui, non, mais je pourrais écrire beaucoup de choses, mais... C'est le premier métal dont on parle, parce qu'on dit justement que dans Gan Eden, il y avait un des fleuves là qui sort tout début, là, qui vient de Eretz Hachavila, là où était l'or qui est bon, le bon or. Bon, c'est un problème de savoir que l'or soit en tête, je comprends, et que ça représente Babel, ça me dérange. Maintenant, on peut aussi dire que ça vient de là-bas, que je ne sais pas, moi, le Gan Eden, si on dit qu'il est par là-haut, il est en Irak quelque part, ou je ne sais pas où. Peut-être c'est Babel, au sens...
Ce que je veux dire, c'est que, apparemment, dans l'Antiquité, ou par rapport à l'Antiquité, l'or, c'était le métal. Maintenant, finalement, c'est le métal précieux, mais le métal de la civilisation, c'est l'acier.
Le métal de la civilisation, c'est le fer ou les reins? Ah, aujourd'hui, c'est le fer, donc.
Oui.
Mais bon, l'or n'a jamais servi à faire la guerre. C'était le nerf de la guerre, peut-être. Mais... J'ai demandé d'ailleurs, quelle est la... En quoi est-ce que l'or était important, surtout à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait de l'or son importance? Qu'est-ce qui donne à l'or son importance? Dans l'absolu, c'est pas vraiment... On ne peut pas dire que c'est obligatoirement la rareté, parce que quand les Portugais ont ramené de l'or, il y en a beaucoup dans le monde. Les Portugais ont ramené l'or au Portugal et... Tout le monde avait de l'or, la baguette valait 3 lingots d'or, je veux dire. Je crois que la rareté de l'or, elle est organisée, je veux dire. Oui.
Il faut un référent rare.
Mais pas rare.
Pourquoi
Je crois que l'avantage de l'or, c'est que. Si je ne me trompe pas, comme vous dites, il ne s'habille pas, ça veut dire tu peux lui donner, tu peux le transformer et tu perds rien, il n'y a pas de perte. Après, tu peux. C'est comme une espèce de réversibilité de l'or. Tandis que dans les autres, je ne sais pas, c'est ce que je me suis laissé dire. Travaillable.
Oui,
c'est ou bien sa malléabilité ou.
C'est lié à l'argent.
Ah non?
C'est lié à l'argent. Au pouvoir.
Mais pourquoi? Mais justement, pourquoi le pouvoir a choisi? Pourquoi on a fait les couronnes en or? Pourquoi on ne les a pas fait en platine ou en laurier? On a aussi fait, mais en argent ou... On fait des diadèmes en argent aussi. Pourquoi on n'a pas fait des couronnes en argent? Les couronnes royales, pourquoi elles sont en or?
C'est le côté attractif.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est brillant, mais le cuivre, si tu l'astiques, il est aussi brillant, non?
L'or, ça ne s'oxyde pas.
C'est ça. Je crois que le gros avantage, c'est que effectivement, il devient ni noir, ni vert, ni gris, ni rien du tout.
Ni immuable, quoi.
C'est ça, c'est sa stabilité, disons, c'est ce que vous disiez. C'est, il y a la réversibilité, c'est. Non. Peut-être que c'est ça, donc ce serait des seraient des raisons intrinsèques, des raisons techniques, en fait, liées à la qualité du matériau, quoi, comme, comme si vous voulez, l'eau, pourquoi l'eau est moins importante, parce que c'est vraiment une propriété de l'eau, hein, son histoire du cas de glace, qui glace, enfin, qui, ça remonte, la densité, sinon on aurait, tous les autres liquides, on aurait le fond des lacs, au fur et à mesure, qui serait gelé en permanence, quoi.
Mais c'est en même temps, c'est la stabilité de l'or, mais c'est aussi parce que on valorise la stabilité. Parce que...
Non, mais que quelque chose, effectivement, ne s'oxyde, enfin, ne s'abîme pas, c'est obligatoirement valorisé, non? C'est la durée, l'idée de durée, c'est...
Bah, obligatoirement.
Jusqu'à ce qu'ils aient compris que s'ils faisaient de la trop bonne qualité, ils ne vendraient pas suffisamment de bas nylon depuis, ou des machines, etc. Ils sont mis à... Il y a des ingénieurs, je me souviens, c'est vrai, quand j'étais étudiant, il y avait des ingénieurs chez Philips qui étaient chargés de savoir à partir de quand on peut admettre que les lampes rendent les plis. Pour qu'on en vende suffisamment, mais que ce n'est pas le... la réputation d'être dans la camelote. Donc ils faisaient les études pour savoir comment ça a marché. C'est à ça que servaient les ingénieurs chez Philips.
L'or ne pouvait servir qu'à l'échange, ça ne sert à rien d'autre. Ça n'a aucune utilité, l'or. Et du coup, c'est devenu le symbole de tout qui ne sert qu'à l'échange, donc à l'accumulation de richesses. Non, justement pas. Parce que c'est un métal qui ne se travaille pas bien, le paradage. Mais sinon, à quoi ça sert? Donc, il s'est un peu imposé comme symbole parce que ça y est. Sinon, bah, effectivement, les autres métaux servent à quelque chose. Donc, c'est difficile d'en faire symbole de l'accumulation ou de l'échange.
Bon. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a de l'or un peu partout, dans tous les ordinateurs et...
Ah, c'est autre chose, mais à l'époque...
Pardon ?
Oui, c'est un produit utilitaire.
Non, ça sert dans les dents, ce qu'on veut, mais à l'époque, ça ne servait à rien.
Chez les magas.
C'est vrai.
Chronologiquement, c'est Roche et Richon. Hein,
en fait, mais c'est un peu gênant que.
Est-ce que ce soit en or?
Non, que. Dans une représentation, la tête, c'est l'or, c'est normal. La tête, la couronne et tout. Que Babel soit premier chronologiquement, je comprends. C'est vrai que c'est le premier galoute qu'on présente comme tel, quoi.
Le Maharal et tout, il présente la caractéristique de Babel comme la volonté de puissance. Donc c'est peut-être aussi ça que incarne la tête couronnée. Quoi.
Mais quoi, Rome aussi, non?
Rome reprend ça.
Mais Rome, il y a l'idée de faire.
De faire.
De construire, de civiliser, de. Mmh. Donc, on a l'impression que la divine, c'est juste. Cultiver des richesses pour dire qu'on est riche.
Pour suivre les images du Maharal. Rome, c'est bien sûr tous les autres, mais caractérisé par un empire dévorant qui annule tout le reste, qui dévore tout. L'empire du rien, je pense qu'il appelle tellement sa puissance et dévorante pour tout le reste.
Ok, on va s'arrêter là.
Oh, rien.
Verdure comme à l'école. S'il vous plaît, remettez dans l'ordre les feuilles parce que, comme je ne sais pas qui a fait ça, mais ça n'a pas été agrafé, c'est en dessous de tout, et donc on s'y perd complètement.
C'est moi qui ai fait ça.
Bonsoir.
Oui, alors, bonsoir.
Bien, bien
ça fait un problème.
Machalom.
Machalom.
Du coup, on va prendre une comme ça. C'est vraiment, on s'en fout.
Okay.